Et les matins débutent avec le journal de Maxime Fayolle. Bonjour Maxime.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. La crise aux urgences continue malgré les annonces de la ministre de la Santé hier. Agnès Buzyn promet, vous le disiez, 750 millions d'euros sur 3 ans pour changer en profondeur le monde de fonctionnement des urgences. On fait le point sur les différentes mesures avec Cécile de Carvaz-Douy.
Et la Cour de cassation examine aujourd'hui une ordonnance qui date de 1945. À l'époque, le général de Gaulle voulait annuler les ventes de biens confisqués sous l'occupation. Texte au cœur d'une affaire de tableau de Pissarro, récit à venir d'Antoine Marette.
Au Royaume-Uni, Boris Johnson n'a toujours pas réussi à imposer des élections anticipées. La motion du gouvernement a été rejetée une nouvelle fois à la Chambre des communes hier. Le président de cette chambre, John Bercow, a par ailleurs démissionné. Et dans une dizaine de minutes, Guillaume, la question du jour.
Épandage de pesticides et santé, que dit la science? On posera la question à une épidémiologiste, Catherine Hill.
La ministre de la Santé Agnès Buzyn a donc dévoilé hier son pacte de refondation pour les urgences. Voilà pour l'élément de langage. Concrètement, il se traduit par 750 millions d'euros de budget sur 3 ans. Des mesures pour tenter de calmer la grève qui touche désormais 250 services d'urgence depuis 6 mois. Les annonces de la ministre ont pour but de revoir le fonctionnement des urgences en profondeur, Cécile de Carvaz-Douy.
En 12 points clés, la ministre a présenté son plan pour désengorger les urgences. D'abord, d'ici l'été 2020, 340 millions d'euros serviront à mettre en place une plateforme accessible en ligne ou par téléphone 24 heures sur 24 pour mieux orienter les patients vers l'hôpital en cas d'urgence vitale ou vers la médecine de ville si cela peut attendre. Car le plan de la ministre prévoit bien de mettre plus largement à contribution les médecins libéraux. Ils devront proposer davantage de consultations sans rendez-vous dans leur cabinet, permettre de réaliser dans leur cabinet toujours des examens biologiques simples, et le SAMU pourra également solliciter des ambulances pour emmener les patients vers leur cabinet de ville. Coût de ces réformes ? 240 millions d'euros. Pour contourner le fait que beaucoup de patients préfèrent aller aux urgences parce que c'est gratuit, la ministre prévoit aussi d'imposer systématiquement le tiers payant dès la fin de cette année pour les médecins libéraux de garde. Les patients n'auront donc plus rien à débourser. Outre les médecins libéraux, le plan Buzyn prévoit aussi de s'appuyer sur les professionnels non médecins pour prendre en charge directement les patients. Les kinésithérapeutes seront donc amenés à soigner des entorses à la cheville, par exemple. Les pharmaciens réaliseront des vaccinations. Surtout, et c'était déjà le sens des annonces des mois de juin et septembre, la ministre veut généraliser l'admission directe des personnes âgées dans des services spécialisés, sans passer par les urgences, avec notamment la mise en place d'une vidéo-assistance de médecins dans tous les SAMU pour mieux orienter les personnes âgées des EHPAD. Enfin, 105 millions d'euros devraient permettre d'accélérer la sortie des patients des services d'urgence afin de libérer les lits. Le hic, c'est qu'à ce stade, le ministère ne prévoit pas d'ouverture de lits ni de recrutement de personnel, comme le réclament les grévistes. La ministre l'a répété, avant de créer des lits, je veux qu'on optimise la gestion des lits.
Cécile de Carvaz-Douy, ses annonces structurantes n'ont pas convaincu ni les syndicats ni les membres du collectif Interurgence. Une assemblée générale du collectif doit d'ailleurs se tenir aujourd'hui. La grève devrait être reconduite. Oriane Plumet, la vice-présidente du collectif Interurgence, demande des actions concrètes dès aujourd'hui.
Certaines des propositions vont s'étaler sur plusieurs mois, voire plusieurs années. En attendant, ça veut dire qu'il n'y a pas de nouveaux moyens qui sont mis sur la table, ça veut dire qu'il n'y a pas d'augmentation des effectifs sur le terrain, il n'y a pas de revalorisation salariale des paramédicaux, on n'augmente pas l'attractivité de nos métiers. On a besoin d'avoir effectivement des solutions à moyen et long terme, parce que sinon ce sera qu'un pansement temporaire. Par contre, là, il ne faut pas oublier qu'on est dans le cadre d'un mouvement social, et donc ça ne répond pas à nos attentes immédiates qu'on a posées très clairement depuis le mois d'avril.
La vice-présidente du collectif Interurgence, Oriane Plumet, avec Véronique Julia. Précisons aussi qu'une manifestation doit se tenir demain à Paris à l'appel de la CGT. Autre dossier que le gouvernement veut mettre sur la table, il concerne l'insertion professionnelle des personnes les plus pauvres. C'est l'une des mesures phares du plan pauvreté du président Emmanuel Macron. Une concertation a été lancée hier par la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, et la secrétaire d'État, Christelle Dubos. L'idée est de mieux accompagner les allocataires du RSA, Catherine Pétillon, et de leur permettre de trouver un emploi pérenne.
Nul n'est inemployable, tel est le mot d'ordre répété à l'envi. L'objectif assigné à ce futur service public de l'insertion, c'est de faciliter le retour à l'emploi en améliorant l'accompagnement, en particulier des allocataires du RSA. Non pas via un organisme de plus, mais grâce à une meilleure articulation entre les acteurs concernés, collectivités locales, État, associations. Il y a un triple enjeu d'égalité des chances, d'efficacité et de proximité, a résumé la ministre du Travail. Et il y a beaucoup à faire, un allocataire du RSA sur deux n'est toujours pas accompagné au bout de 6 mois. En 20 ans, les dépenses des départements en faveur de l'insertion sont-elles passées de 20 à 7%. Mais pour Stéphane Troussel, le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, difficile de changer cela tant que ne sera pas réglée la question du financement du RSA.
Chaque année, dans son propre budget, le département de la Seine-Saint-Denis doit mobiliser 200 millions pour le paiement de l'allocation individuelle du RSA. C'est autant de moins pour les politiques d'insertion. Donc ça, c'est une question centrale. Depuis 20 ans, il y a une augmentation continue du nombre d'allocataires du RSA. Et surtout, l'État n'a pas tenu sa promesse de compensation intégrale du RSA, ce qui nous met dans des situations de profonde inégalité sur le territoire, puisque les territoires qui sont les plus en difficulté, qui ont donc le plus d'allocataires du RSA, bah c'est de fait ceux qui doivent, dans leur propre budget, consacrer le plus à l'allocation du RSA et donc qui ont moins de moyens pour consacrer ces sommes à l'accompagnement et aux politiques d'insertion.
La concertation doit aboutir au début de l'année prochaine, en même temps que celle sur le revenu universel d'activité, censé fusionner les prestations sociales. Ces deux sujets devraient faire l'objet d'un projet de loi dans la foulée.
Reportage de Catherine Pétillon. Les potentiels repreneurs de la compagnie Aigle Azur ont jusqu'à demain pour muscler leur offre. 14 offres de reprise ont été déposées hier. Air France et Air Caraïbes sont les plus intéressés et pourraient se partager l'activité et les salariés de la compagnie. Le tribunal de commerce doit se prononcer lundi prochain sur l'avenir des 1150 personnels d'Aigle Azur. C'est une gouache de Pissarro achetée il y a près de 25 ans et qui est aujourd'hui au cœur d'un procès qui pourrait d'ailleurs faire jurisprudence. Une question prioritaire de constitutionnalité est posé à propos d'un texte, une ordonnance de 1945 prise par le général de Gaulle. Elle prévoit que toutes les ventes de biens spoliés sous l'occupation sont annulées. La Cour de cassation va devoir trancher, Antoine Marette, sur le devenir de ce tableau de Pissarro que la justice veut restituer aux descendants d'un collectionneur juif.
En 1995, un richissime couple d'Américains, les Toll, achète chez Christie's à New York la cueillette de Pissarro. Coût de l'opération, 800 000 euros. 22 ans plus tard, il prête le tableau au musée Marmottan à Paris qui organise une rétrospective sur le peintre. Parmi les premiers visiteurs de l'exposition, Jean-Jacques Boer. Son grand-père, Simon Boer, avait été dépossédé de sa collection de tableaux en 1943, parmi lesquels la fameuse cueillette. Il lance aussitôt une procédure contre les époux Toll qui plaident la bonne foi. Il ne savait pas que l'œuvre était issue d'une spoliation. Mais en première instance, la décision tombe, ils doivent restituer la gouache à la famille Boer. Le tribunal de Paris s'appuie sur une ordonnance de 1945. Elle déclare la nullité des actes de spoliation accomplis par l'ennemi ou sous son contrôle. Cette décision est confirmée en appel. Les époux Toll déposent donc une question prioritaire de constitutionnalité qui est examinée aujourd'hui. Ils estiment que le texte de 1945 est contraire à la Constitution. Deux solutions pour la Cour de cassation. Soit elle estime que cette objection est sérieuse en droit. Dans ce cas, c'est le Conseil constitutionnel qui prendra le relais et devra statuer dans les 3 mois. Si en revanche, la Cour de cassation estime que cette question n'est pas fondée, cette demande QPC en restera là.
Les précisions d'Antoine Marette. L'audience est à 9h30 ce matin. 2 ans de prison ferme requis hier pour un couple dans une affaire d'esclavage moderne. Un ancien ministre du Burundi et sa femme sont accusés d'avoir séquestré l'un de leurs compatriotes pendant 10 ans, l'obligeant à travailler jusqu'à 19 heures par jour pour presque aucune contrepartie. Récit de l'audience à venir dans le journal de 8h sur France Culture.
7h08 dans les matins de France Culture, le journal de Maxime Fayol. Toujours pas d'élection anticipée au Royaume-Uni.
Les députés de la Chambre des communes ont voté contre la motion du gouvernement hier. C'est la 2e fois en quelques jours. Le Parlement britannique rentre désormais dans une pause qui va durer jusqu'au 14 octobre, quelques jours avant un Conseil européen décisif en vue du Brexit. Le divorce avec l'Union européenne est prévu dans 50 jours et Boris Johnson a encore refusé hier d'accorder un nouveau délai de 3 mois comme l'ont pourtant exigé les parlementaires britanniques.
Ils veulent encore une fois retarder le Brexit et encore une fois sans tenir compte de ceux qui ont voté pour sortir de l'Union européenne et en continuant de donner à Bruxelles 280 millions d'euros sans avoir aucun but. Et pendant ce temps, ce gouvernement va continuer rapidement à négocier un accord. Tout en se préparant à sortir sans accord. Et j'irai assister à ce sommet européen crucial du 16 octobre. Et quels que soient les dispositifs que ce Parlement invente pour me lier les mains, j'avancerai à grands pas pour conclure un accord qui soit dans l'intérêt de la nation.
Le Premier ministre britannique Boris Johnson hier à la Chambre des communes et l'Union européenne, quant à elle, se concentre plus sur la formation de son équipe à la Commission. Chaque pays membre a soumis le nom d'un commissaire. La présidente Ursula von der Leyen va désormais attribuer un portefeuille à chacun. C'est une annonce importante qui sera faite aujourd'hui, Angélique Boin, car elle va donner les indications sur les priorités de la nouvelle présidente de la Commission pour son mandat.
Ils seront 14 hommes et 13 femmes, présidentes comprises, contre 9 dans la commission Juncker. Pas de parité parfaite donc, mais un réel progrès. En termes de compétences, le niveau monte également, souligne un expert. Il y a plusieurs eurodéputés, des ministres, deux anciens premiers ministres et 8 commissaires qui rempilent. Restent les attributions dont la liste sera dévoilée ce midi. La France, avec sa candidate Sylvie Goulard, lorgne sur un gros portefeuille économique, mais l'Italie aussi. Des Marocains attribués selon le poids de l'État membre, mais pas seulement. En 2014, la Grèce avait par exemple hérité des migrations, un défi pour ce pays concerné au premier chef, mais une curiosité pour certains, car un commissaire ne doit défendre ni son parti, ni son pays, mais l'intérêt général. Quoi qu'il en soit, la répartition des postes est un jeu politique subtil, car ces futurs commissaires seront auditionnés par les eurodéputés qui ont le pouvoir de les écarter. Avec son affaire d'assistant parlementaire, Sylvie Goulard, pourtant blanchie par le Parlement, sera sans doute bousculée. L'OLAF, l'Office européen de lutte antifraude, a en effet ouvert une enquête. La future commission prendra ses fonctions le 1er novembre, sans commissaire britannique. Le gouvernement, bien déterminé à avoir quitté l'Union la veille, le 31 octobre, a en effet refusé de présenter son candidat. Une situation assez inédite, mais acceptable à condition que cette vacance, tolérée par les textes européens, ne traîne pas trop.
Les explications d'Angélique Boin. Le temps de ce mardi avec du beau temps, notamment sur le nord du pays, de la pluie prévue sur le sud, des orages notamment sur les Pyrénées. Les températures minimales ce matin entre 7 et 15 degrés, Guillaume Erner.
Merci Maxime Fayolle.